Chapitre 29.
Les derniers pêcheurs sont rentrés au port, les mouettes repartent vers le large, le soleil se couche et le silence d'hiver retombe sur les toits blancs. J'écrase ma cigarette, quitte la terrasse. Au coin du feu, Kim répare une amphore qu'elle a trouvée dans la mer pendant que, sur la grande table de monastère qui occupe le restant de la pièce, Madame Nespoulos farcit les feuilles de vigne avec du chili froid, une recette toute personnelle et parfaitement immonde qui, dit-elle, lui rappelle l'Amérique. Ses opérations du cœur ne sont pas des réussites, mais elle survit, allant chaque matin devant la tombe de son mari, au fond du jardin, lui demander pardon de ne pas l'avoir rejoint encore. Elle semble contente de notre présence, mais elle est déjà ailleurs. Dans son petit paradis de la mer Égée, elle tue le temps parmi les vieilles photos, les carafes d'ouzo et les feuilles de vigne. Jimmy se remet de ses blessures, lentement. Il a décidé de cicatriser dans la mer et ses plaies se creusent de jour en jour. Il prétend ne pas souffrir. Il ne dit presque rien. La lumière de son sourire remplace les paroles, mais laisse un grand vide quand on croise son regard. Kim est perplexe, j'ai confiance. Madame Nespoulos le trouve inchangé. Elle n'a pas la télé, elle n'écoute plus le présent, et il a commencé à lui creuser une piscine. Un matin sur deux, il part en barque, revient au soleil couchant avec des paniers de poissons. Même s'il leur parle en grec ancien, les pêcheurs ont l'air d'apprécier sa compagnie. Je ne sais où il en est de son cheminement intérieur. J'ignore ce qu'il va faire tous les deux jours dans la grotte de l'Apocalypse. Je ne le vois qu'en fin de journée, quand je quitte mon ordinateur et j'expédie poliment le dîner pour retourner travailler. Je respecte son silence et j'ai tant à écrire. C'est un bonheur incroyable de mener en parallèle mon livre et ma grossesse. Les deux rêves de ma vie convergent, s'alimentent l'un l'autre. Je devrais peut-être m'inquiéter de l'avenir, mais le présent est bien trop riche. Pas une fois Jimmy ne m'a questionné sur le manuscrit. Pas une fois je ne lui ai demandé de précision sur ce qu'il avait pensé, vécu, déclaré ou tu. Je laisse parler mon instinct, la confiance qu'il a mise en moi. Je me souviens, je mêle les témoignages de Kim, d'Irwin, de Buddy Kupperman, du cardinal Fabiani qui m'inonde de mails par l'intermédiaire de son aide-soignant, et je me glisse dans l'esprit de Jimmy pour voir son aventure avec ses yeux, la revivre avec ses mots. Le jour où je lui ferai lire, il aura tout loisir de corriger. Pour l'heure, je m'occupe de son passé et je le laisse se reconstruire. À la lueur des bougies, les soirs où j'ai l'impression que je tiens son personnage, je le regarde se taire au milieu de ses trois femmes, nimbé de sourires dans sa lumière intérieure. Je l'écoute ignorer les phrases que je mets dans sa bouche et je me dis qu'on peut ressusciter sans être forcé de mourir. À quoi va-t-il employer sa vie, maintenant ? Ces prolongations que les humains ont décidé d'accorder, cette fois, à celui qui prétendait les sauver. Je ne sais pas encore si l'épreuve subie a fait de lui un demi-dieu ou simplement un homme à part entière. Une nuit, en me réveillant, je l'ai vu debout devant moi, immobile et concentré, les mains en suspens au-dessus de mon ventre. Il m'a souri, a posé un doigt sur sa bouche en désignant Kim endormi à l'autre bout du grenier, et il a regagné sa chambre. Depuis, je sais qu'il vient chaque nuit, et je l'attends dans mon sommeil. Il travaille sur mon enfant, comme je travaille sur son livre.